Commençons par la prière. Oui, Seigneur, comme tu le vois, c'est une joie quand nous sommes avec toi. Nous parlons de toi, avec toi, en toi. C'est vraiment une joie que tu mets dans notre cœur et merci. Malgré les circonstances difficiles que nous pouvons vivre, eh ben, tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre sécurité, tu es notre avenir, tu es notre raison d'exister. Nous vivons ici sur terre, nous menons notre vie normalement, mais nous ne sommes pas tout seuls parce que tu es avec nous. Merci pour ces moments encore ce matin. Merci pour cette communion fraternelle. Et je remets entre tes mains ces paroles que nous allons partager ensemble. Et comme d'habitude, je te prie, Seigneur, de d'enlever tout ce qui peut venir de l'homme et tu nous gardes ce qui vient de toi. Que tu parles à chacun de nous, selon la mesure de chacun, de chacune. Mais que ta gloire seule prenne toute la place. En ton Saint-Nom. Amen. Alors aujourd'hui, c'est, s'il faut donner tout de suite un titre, je vous l'ai donné tout à l'heure, en fait, se libérer de la chrétienté. Hein, on entend ce mot, chrétienté. Hein? Prêcheur, je crois qu'on dit des choses comme ça aussi. Donc, oh, la chrétienté, ces gens-là, chrétiens, l'Église, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce bazar-là? Hein? Ils croient en quelqu'un, un être humain, ça ne va pas, non? Ils croient au pape. Vous croyez au pape? Ah non, d'accord, vous me rassurez. Au président, donc nous sommes ici, nous ne croyons pas au pape, justement. Parce que sinon, je ne vois pas, voilà. Heureusement. Se débarrasser de la chrétienté. Et surtout avec ce qui se passe actuellement dans le monde, il est temps de revenir aux fondamentaux. Je pense qu'il est temps maintenant de se poser et de dire maintenant, la foi chrétienne simple, pourquoi compliquons tout? On aime bien la théologie. Il y en a même, en fait, qui investissent dans des abonnements pour acheter des livres. Je sais pas, donc voilà. Ils aiment bien lire. Et en sachant, et en lisant, ils nourrissent leur intellect. Et ils croient que ça, ils s'enrichent. Mais c'est rien du tout, ça. C'est pas ça, la foi chrétienne. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'amalgames. On sait plus ce que c'est chrétien. On sait ce que ça veut dire Dieu. J'ai entendu, vous avez comme moi, découvert le dernier sondage en France. Plus de la moitié des Français ne croient plus en Dieu. Mais ça ne m'étonne pas quand je vois la situation de la famille en France. Est-ce qu'il y a des familles? Il n'y en a plus, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de familles. On ne dit plus qu'il y a une famille maintenant, il y a des familles. Ah ben oui, il y a plusieurs sortes de familles. Il n'y a plus de valeurs. Je disais à Oussama, s'il y a quelque chose qu'il faut que tu gardes ici en France, c'est ce que tu as appris dans cette culture orientale. La famille, le respect, l'amour de l'autre. Ça, il faut le garder. Parce qu'ici en France, il y en a de moins en moins. Heureusement, il y a des chrétiens qui continuent dans ce monde, malgré... Hein, c'est de plus en plus dur. Et pourtant, il faut continuer à se battre. Parce que notre relation avec le Seigneur, c'est une autre vie. Ce n'est pas la vie que le monde nous offre, bien qu'on vit dans le monde. Des confusions. Qu'est-ce qu'un chrétien? L'Église. Quand on parle, on dit l'Église, tout de suite, on pense à beaucoup de choses. Là, le Seigneur, il est mort sur la croix, mais c'est qui? C'est quoi? Oui. On caricature, on se moque, on fait des films. Et même des fois, les chrétiens sortent des blagues. Et ça ne dérange pas. C'est normal. Mais ce ne sont que des blagues, mais voyons, c'est des blagues. Comment peut-on sortir des blagues sur le Seigneur qui a donné sa vie pour nous, qui est notre Dieu? Se débarrasser de la chrétienté. Revenons aux fondamentaux. Le respect et la crainte. Quand on lit la Bible, les croyants tremblaient. Ils tremblaient quand ils sont face à leur Seigneur, à leur Dieu, ou face seulement à la Bible. Il tremblait. Nous, pas de problème. On a tout dans la tête. On blague. Je mène une vie même catastrophique. Mais je montre une autre image. Et soi-même, on n'est même pas interpellé tout seul dans sa chambre, dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les Hébreux, dans l'ancien temps, même jusqu'à aujourd'hui, les vrais, je parle parce que là aussi, il y en a qui ont quitté. Quand ils lisaient la Bible, peut-être lui, tu vas me confirmer, quand ils arrivent au nom donné à Dieu, nous prononçons Yahvé, Il n'ose même pas le prononcer. Plus que le respect, c'est la crainte. Il le montre avec un truc dans la main, il montre. Ils se taisent tellement, ils ont de respect pour Dieu, pour les valeurs. Ici, on les perd, en Occident. Je ne généralise pas, bien entendu. Et heureusement qu'il y a des croyants et des chrétiens qui continuent encore à faire vivre cette réalité qui nous est chère. Se débarrasser de la chrétienté de notre vie. À commencer par l'Église. L'Église, voilà un mot. On le met dans toutes les sauces, à toutes les sauces. L'Église. Le dimanche, je vais où? Je vais à l'Église. L'Église vient du mot ecclésia. C'est grec. Ecclésia. Et quand on prend ce mot, il est composé de deux, c'est ek et ecclésia. Si je dois le résumer, c'est hors de. C'est ça, l'Église. Hors de. On est mis à part hors de. Oui. On est dans le monde ou on n'est plus du monde. On est hors de. Et dans le mot ecclésia, il y a le clésis qui veut dire appel. Nous sommes appelés à nous mettre hors du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter d'aller dans un couvent, mais ce n'est pas ça du tout. Nous sommes dans le monde, mais nous ne subissons pas la loi du monde. Nous ne fonctionnons pas comme le monde. Nous ne rentrons pas dans cette convoitise du monde. Nous sommes d'un autre monde. Et notre monde, il est céleste. L'ecclésia, l'Église, telle que Dieu la voit, elle ne concerne pas seulement un bâtiment. Dans Actes chapitre 8, verset 3, je lis, Saul, de son côté, ravageait l'église. L'église, ce n'était pas dans un petit endroit bien spécifique. Tous les chrétiens qui croyaient en Christ, c'était l'église. C'est ça qu'il ravageait. Saul ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Toutes les maisons, tous les chrétiens, n'importe où, quand il en fait, c'était l'église. L'ecclésia, dans le sens. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il s'attaquait à l'église. Il ne s'attaquait pas à un bâtiment. Il s'attaquait à des chrétiens. C'est ça l'église. C'est ça l'ecclésia. Dans Actes chapitre 9, verset 31, je lis, l'église était en paix. Dans la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un bâtiment. C'est les chrétiens. Et Dieu, quand on regarde, ne regarde pas un bâtiment, il regarde un corps. C'est tous les chrétiens. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il n'a pas dit une maison, une assemblée. Il n'a pas dit rue Albert Ier. Mon église, les chrétiens, tous les enfants qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur. C'est ça, l'ecclésia, l'église. Il est important que nous fassions une distinction claire, mes frères et sœurs, entre l'église vraie, telle que Dieu la voit, d'un côté, et l'église qu'on appelle l'église institutionnelle. Les systèmes religieux, ce qu'on appelle aussi la religion organisée. On est bien, la religion organisée. Et on met ça sur l'ordre de Dieu. C'est ordonné, organisé, elle vient de Dieu. Ou tout simplement la religion en général. Toute religion confondue dans le monde, regardons les catastrophes. Toute religion, elle essaie de garder son périmètre. Nous avons la vérité. Les autres ont tort. Et comme c'est sympathique, on se renferme du monde, on se protège, on ne veut pas voir les autres. Mais dans le pire, on attaque les autres. Ça, c'est la religion. La religion organisée ne peut pas donner la vie. Ne peut pas donner la vie. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12, je lis, c'est notre témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On peut appartenir à une église, on peut appartenir à une nation, on peut avoir un bâtiment, mais si on n'a pas la vie, on n'est pas chrétien. Contrairement à la croyance populaire, le Seigneur Jésus, que nous appelons, nous en arabe, Al-Yeshua ou Al-Masih, comme je vous dis, Masih, il y a dedans, il y a la notion Masih, Masaha, effacé, hein, qui efface nos péchés, qui nous efface notre passé. Le Seigneur Jésus, le Christ, ne vit pas dans les systèmes religieux. Il n'est pas dans les systèmes religieux, je le répète. Il n'habite pas la religion organisée. Qu'elle s'appelle Vatican, qu'elle s'appelle les orthodoxes, les anglicans, ou qu'elle s'appelle Action biblique. Il n'habite pas là, dans la religion organisée. L'Ecclésia, l'Église, comme notre Seigneur, est complètement autre. Pourrons-nous nous joindre à l'Ecclésia, à l'Église, comme ça? Est-ce que Oussama rejoint l'Église? Pas du tout. Même s'il est rentré dans le bâtiment, il ne fait pas partie de l'Église. Il est accueilli dans un bâtiment, certes, mais il fait partie de l'Église de Dieu quand il aura reçu le Seigneur en lui, quand il a reçu la vie. C'est ça l'Église, pas un bâtiment. Ce n'est pas une question de se joindre ou de ne pas se joindre, mais une question d'avoir la vie ou de ne pas avoir la vie. C'est plutôt cela qu'il faut dire. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous l'avons lu, c'était clair, précis. Certains croient incorrectement que Jésus a fondé un mouvement ou une nouvelle religion. C'est comme ça qu'on présente. La religion musulmane, la religion juive, la religion catholique, la religion protestante, la religion, vous voyez, même des philosophies, des bouddhistes, etc. Et on dit que Jésus, voilà, c'est un mouvement qu'il a créé. Mais le monde avait déjà des mouvements quand il est arrivé. Donc il n'avait pas besoin de quelqu'un. Il y avait déjà des religions, ou plutôt une religion. Et le monde continuera à en avoir, voire il en créera d'autres. Regardez les sectes. Que nous a-t-il apporté alors le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Qu'a-t-il apporté au monde de si nouveau, pas comme les autres, révolutionnaires? Mais il a apporté, et ça, aucune religion ne l'apporte. Je dis bien, aucune religion ne l'apporte. Il nous a apporté sa propre vie. Il nous a apporté sa propre vie. Ça dépasse les règles que je vous dicte. Ça dépasse, faites ci ou faites cela. Non. La preuve d'amour qu'il nous a montré, je vous donne ma vie. Qui nous a donné sa vie? Si je prends l'histoire, c'est mon domaine, l'histoire. Les religions ont plutôt pris la vie des autres. Regardez les guerres des religions, les catholiques, l'islam, tout ce que vous voulez. On a pris la vie des autres pour dire, voilà, comme sacrifice. Mais celui qui a donné sa propre vie, il dit, je ne vous donne rien du tout, moi je vous la donne. C'est le vrai amour. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucune religion ne le fait. Les différentes religions, les différentes philosophies aussi, philosophies comme le bouddhisme, peuvent nous apporter le bon enseignement. Il ne faut pas le rejeter. Il y a des bons enseignements. C'est très bien dans ce monde. Il y a l'excellence morale. Il y a une bonne morale. Et j'en suis fier de ma culture parce qu'il y a une morale. Et je la garde. Dans ce monde, il n'y a plus de morale. Et bien, je garde ma morale que mes parents m'ont transmise. La religion peut apporter aussi le savoir religieux. La science théologique. Pour ceci, ils peuvent être recommandés en tant qu'aide à l'humanité. Pour que des sociétés existent, il faut cette morale. Et merci pour toutes ces religions. Mais Jésus-Christ est différent. Il nous apporte lui-même sa propre vie dans notre vie. Il nous invite à vivre dans une union et non pas se contenter d'une relation distanciée. Où je suis obligé d'appliquer des règles, des préceptes, il dit non, ces règles, on va les couper, je vais venir en vous. Je vous donne la vie. Ce n'est pas qu'il nous communique simplement quelques enseignements avec des principes moraux avant d'être enlevé dans le ciel. Il est bien au-delà d'un simple exemple. Oui, il est notre modèle, mais c'est plus que ça. Il n'est pas un simple prophète comme... Oui, donc il a posé la question à Pierre qui disent de moi. Il y en a qui disent, il y en a qui disent que, vous êtes que tu es un prophète. D'autres disent, tu es Élie, etc. Même les religions aujourd'hui, on le présente comme un prophète, etc. Mais quand il lui a dit, et toi, que dis-tu que je suis? Mais comme il lui était révélé par Dieu, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il est bien au-delà d'un simple exemple. Il n'est pas une simple référence pour notre vie, où des fois, on se pose des questions. Je dirais, sans se rendre compte, on se pose des fois la question, que ferait Jésus à ma place? On inverse le rôle. Je suis dans une situation, dans ma vie, mais que ferait Jésus dans ma place, à ma place? Je veux ramener le Seigneur à ce que je fais. Non, il est venu pour être notre vie. Il est sauveur et salut. Il est rédempteur et rédemption. Il est le donateur de la vie et il est la vie. Il est l'origine, le cheminement, l'aboutissement de toute chose. Il n'est pas seulement cet être qui est venu il y a 2000 ans, qui a vécu sur terre, et les historiens parlent de lui. Oui, mais c'était une image limitée de son histoire. Il est aussi éternel que Dieu est éternel. Mais cette éternité, ce Dieu éternel, pour nous montrer son amour, il a voulu faire partie de notre histoire. Il est venu durant les quelques 33 années, au milieu de nous, pour nous montrer son amour, être comme nous et payer le prix à notre place. Mais il est retourné à sa place, il est retourné à l'éternité. Et quand nous prions le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas penser à ce Jésus qui a vécu il y a un peu plus de 2000 ans. Non, Jésus c'est Dieu lui-même, Dieu lui-même. Mais dans son amour, il est venu dans l'histoire, pour lui, voyez. Puisque si vous lisez la lettre aux Éphésiens, aux Colossiens, vous verrez que nous avons un Seigneur qui dépasse l'imagination. En lui est la vie, parce qu'il est la vie. Tous ceux qui sont en lui possèdent la vie, et la vie les possède. La vie est dans le Fils est en moi, et je suis en lui. C'est ce que nous devons tous dire aujourd'hui, ce matin. Nous partageons une vie commune ensemble. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 77. L'ensemble de ceux qui possèdent la vie, ça s'appelle l'Église. Oui, il n'y a aucun rapport avec le bâtiment. L'Ecclésien, c'est ça l'Église. Et l'Église est le corps du Christ. Les différents membres de l'Église s'appellent chrétiens. Les chrétiens, si je dois faire un jeu de mots, ils sont tous en Christé. Nous sommes en Christ. Ils demeurent en lui et ils demeurent en eux. Nous nous demandons si un chrétien n'est pas celui qui croit ceci ou cela, ou se comporte comme ceci ou cela. Nous répondons, et nous devons répondre, qu'ils peuvent très bien croire et se comporter ainsi, mais la croyance et le comportement, même bon soit-il, et le comportement n'est pas ce qui fait de nous des chrétiens. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils se conduisent très bien. Je n'en connais pas beaucoup dans leur respect, de leur façon de vivre, meilleur que Oussama. Il ne l'est pas, chrétien. Dire que c'est les chrétiens comme ça, ce n'est pas le comportement qui fait de nous des chrétiens. Certainement, les chrétiens ont un système de croyance et de pratique, mais la caractéristique d'un chrétien est la vie. Avons-nous la vie? Nous avons la vie, nous sommes chrétiens. Nous avons Christ en nous. Nous n'avons pas la vie, nous avons des principes, certes, mais qui ne nous sauvent pas. La vie chrétienne ne veut pas dire le Seigneur dans ma vie. Ouais, je vais aller plus loin. La vie chrétienne ne veut pas dire le Seigneur dans ma vie. La vie chrétienne veut dire le Seigneur est ma vie. Quand je dis « et dans ma vie », c'est déjà « il y a mon monde, il y a son monde, mais il vient dans ma vie ». Mais le chrétien, Le Seigneur est ma vie. C'est ma raison d'exister. C'est mon prince, c'est pour ça, c'est mon oxygène. C'est cela, le chrétien. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, je lis. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Oui, on demande. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est ce que je viens de vous dire. On doit se poser la question. Est-ce que nous avons la vie? Est-ce que nous avons Christ en nous? Si ce n'est pas le cas, agenouillons-nous dans la repentance, dans notre solitude, et prions notre Dieu en lui confessant notre situation. Et il est là pour nous répondre. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Nous sommes en Christ. Un christianisme intellectuel et théologisé, c'est l'époque du 21e siècle, on remplit sa tête, hein, on aime bien remplir sa tête. C'est ce que la religion organisée nous offre. Il ne peut pas, mais tout ça ne donne pas la vie. Qu'est-ce que je veux dire par un christianisme intellectuel? Par exemple, on dit, je connais l'ABC de la vie chrétienne. Voilà le cheminement. Hop. Repentance. Confession. Baptême. Ah, j'ai tout ça, moi. Ouais, je suis chrétien. Ah, rien du tout. Ça, c'est une méthode. Mais si on a tout ça, il n'y a pas la vie, on n'est pas chrétien. La religion organisée a transformé le christianisme en chrétienté. Voilà, j'y arrive. On a créé des règles. Un évangile facile à croire, mais progressivement plus difficile à vivre. La religion organisée peut apporter la doctrine, l'enseignement, la croyance. Une partie d'elle peut être moralement excellente et bonne. Une partie d'elle peut même être biblique, comme je viens de le dire, les étapes, voyez, baptême, etc. Mais si nous n'avons pas la vie, nous n'avons pas Christ, nous ne faisons pas partie de l'Église. Jésus-Christ est la vie. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Tout ce qu'on peut faire en réalité, et qu'en nous évangélisant, qu'en nous témoignant, ou quand je parle à Oussama, comme je l'ai fait quand il a connu mon témoignage, je ne le dirige pas vers une église, un bâtiment. Ce serait une erreur de ma part. Tout ce qu'on peut faire en réalité, c'est diriger des personnes à Jésus comme source unique de vie. On ne dirige pas les personnes à s'attacher à une association culturelle ou culturelle. On ne dirige pas les personnes à remplir une salle une ou deux fois par semaine. Non, pas du tout tout cela. On les invite par le témoignage de notre vie à entrer en contact avec la vie qui est Jésus-Christ. Attention, nous ne pouvons pas leur donner la vie. Je ne peux jamais donner la vie à qui que ce soit. C'est Christ, le Fils de Dieu, qui donne la vie, puisqu'il est la vie. Devant les défenseurs des systèmes, dénominations, tout ce que vous voulez, et de la religion organisée, Jésus crie et pleure. Et voilà ce qu'il dit dans Jean, chapitre 5, versets 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous remplissez la tête, la théologie. Alors là, ça y va. Mais tout simplement, venez à moi. C'est moi qui la vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 25. Vous ne savez pas lire ni écrire. C'est pas grave. Cherchez-moi. Et vous avez tout. Venez à moi. Et non pas apprenez par cœur les étapes et les principes chrétiens. L'Église, l'Ecclésia du Seigneur, est la synthèse des individus qui ont la révélation de Jésus. Nous avons reçu Jésus en nous. Nous avons reçu la révélation. Et bien, nous sommes l'Église. Nous employons avec aisance, moi le premier, dans ma propre histoire, le terme « Église » pour décrire les choses qui ne sont pas l'Église. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est une interpellation pour moi, pour mes enfants, pour nous tous. Même si ça nous interpelle, et bien c'est pas grave. Tous nous rendrons compte devant Dieu. Et ce n'est pas vous qui allez payer à ma place. Je serai tout seul devant lui. Un bâtiment consacré aux réunions religieuses, on l'appelle église. Assister à une réunion religieuse s'appelle aller à l'église. Entendre un bon message ou une bonne musique au cours de la réunion religieuse s'appelle en vie, l'église, dans l'église. Devenir membre de l'organisation à but non lucratif qui possède le bâtiment consacré aux réunions religieuses, on dit se joindre à l'église. Les gens se sont accoutumés à dire l'église au lieu de dire une organisation à but non lucratif qui possède un bâtiment consacré aux réunions religieuses. Il faut faire attention de ne pas faire cette confusion entre l'Église du Seigneur, qui représente son corps, et simplement la religion organisée, même s'il y a un président, secrétaire, trésorier. Les systèmes organisés, ce n'est pas l'Ecclésia du Seigneur. Les systèmes organisés, ce n'est pas le Seigneur. Prenons l'Église primitive. Il n'y avait pas d'organisation. Les chrétiens se réunissaient en maison. C'était pas l'Église alors. Humainement, nous voyons simplement les choses à la manière que nous avons été formés pour le voir. Ma culture orientale me donne ma façon de voir l'Église. Vous, votre éducation en Europe, vous voyez l'Église. Chacun son histoire d'expliquer l'Église. Nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Nous les voyons d'après notre culture, notre façon, comment nous sommes faits. Il est plus facile de mesurer et de décrire les choses en termes de religion organisée, c'est la facilité, parce que c'est terrestre, mondain et naturel. Un jour disparaîtra. Demandez à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que l'Église? Ce serait bien de poser la question, qu'est-ce que l'Église? Quelle est l'Église maintenant? Où est l'Église au Creusot? Mais il répondra, c'est ce bâtiment-là avec un clocher. Vous voyez? Est-ce qu'on ne commet pas la même erreur que nous, mais on le dit différemment? Demandez-lui, qu'est-ce qu'un pasteur? Il va vous répondre, ah, c'est le bon frère, c'est le gars qui fait la prédication, là. On entend sur Internet, là. Vous voyez, habillé toujours une cravate. Les gens lisent la Bible beaucoup et prient beaucoup. Peut-être c'est cela les chrétiens. Mais tout ça ne fait pas de nous des chrétiens. Vous voyez à quel point il est facile de définir la religion organisée. Elle est réelle, concrète. Nous pouvons la toucher de nos mains. Donc on dit c'est ça l'Église. Mais la réalité est que tout ce qui compose l'Église est spirituel. Voilà, on y arrive. L'Église est spirituelle. L'Église est invisible à l'œil nu. L'Église n'a pas de corps. Elle ne peut pas être mesurée par des investissements, par des moyens financiers ou par des statistiques. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église n'est rien de tout ça. L'Église est la synthèse de tous les individus qui ont la révélation de Jésus, qui sont venus à lui pour le recevoir dans leur cœur pour qu'il devienne leur vie. Elle est au-delà de la description géographique. Elle est partout et nulle part. Et le chrétien est celui qui fait partie de ce corps spirituel, c'est-à-dire tout simplement Christ. L'Église, c'est Christ. Cette vie invisible de l'Église est la caractéristique de l'Ecclésia. Quand on pourra capturer et emprisonner le vent dans un sac, alors nous pourrons bourrer des chrétiens dans un bâtiment et l'appeler Église. Luc, chapitre 17, verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Christ en vous, l'Église. L'Église, c'est comme le vent. Et je vous lis dans Jean chapitre 3, verset 8. Il souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Voilà le chrétien. Ainsi, de notre position ici sur terre, la religion organisée peut être facilement vue. Mais l'Église, selon Dieu, on ne peut pas la voir. C'est le Seigneur qui nous transporte vers l'Église. Imaginons maintenant que le Seigneur nous réveille une nuit. Et nous dise... Un rêve. Montez ici, je vous montrerai l'Église. Alors, vous vous attendez à ce qu'il nous porte dans la rue Albert Ier. Vous nous emmenez à l'Église, la rue Albert Ier. Mais à la place, nous nous trouvons très haut dans le ciel. Loin de la terre même. En un clin d'œil, nous voyageons au-delà des limites de l'univers temporel et dans le royaume de l'esprit. Assis avec le Christ dans le lieu céleste, à droite du Père, sur le trône de Dieu. Mais il est où, la rue Albert Ier ? Le Seigneur nous dit, mais tu es dans l'église, là-bas. Assis avec le Seigneur dans le ciel et regardant sur le monde en bas, nous cherchons Albert Ier, rue Albert Ier, notre église, notre bâtiment. Nous assistons pourtant à la disparition parce qu'elle s'éloigne. Nous assistons à la disparition de tout ce que nous concevons de l'église. On ne voit plus de bâtiment, ni de cathédrale, ni de dénomination, ni de séminaire, ni d'activité, ni tout disparaît. Tout ce qui reste, nous sommes assis à la droite du Père. C'est cela, l'église. Se tenant à côté du Seigneur, nous voyons comme il voit. Nous nous rendons compte que notre façon de voir l'église est différente de celle de Dieu. Nous la voyons en bas par terre, bâtiment, Dieu la voit au ciel. Nous avons une vision humaine alors que Dieu a une vision spirituelle. Dieu prend plaisir à ceux qui demeurent en lui, ceux qui possèdent le Fils comme étant ceux qui ont la vie. Nous nous rendons compte que l'église du Seigneur ne diminue pas en fait. Nous voyons les églises se vider, le Seigneur les voit différemment. Il voit l'église se développer à travers l'histoire et la vie règne parce que son Fils est dans les églises d'hier et d'aujourd'hui. C'est cette vision qu'avaient les apôtres quand on lit le Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Quand on lit, on lit. Je vous invite à lire Éphésiens et Colossiens. Vous allez voir ce que c'est que l'Église. C'est cette vision qu'avaient les apôtres. C'est cette vision qu'avaient les premiers chrétiens. Les gens tout simples, la plupart ne savaient ni lire ni écrire. C'est cette révélation de l'Église qu'avaient de simples chrétiens à travers l'histoire. Une révélation qui a fait d'eux des chrétiens simples, mais des chrétiens brisés, portant quotidiennement leur croix, se réjouissant dans le dépouillement et acceptant de souffrir pour le Seigneur. Des chrétiens qui ne vacillent pas dans un monde de convoitise. Des chrétiens qui avaient le discernement pour ne pas succomber à la tentation de ce monde. Et ils savaient discerner les attaques du diable. Ils n'étaient pas intellectuels, c'est tout simple, les êtres. Ils savaient ni lire, la plupart savaient ni lire ni écrire. Mes frères et sœurs, si nous sommes l'Église, je n'ai pas dit dans l'Église, si nous sommes l'Église avec un E majuscule, alors nous sommes célestes. Nous ne sommes pas terrestres, même si nous vivons dans le monde. Nous sommes citoyens du ciel. Si nous sommes citoyens du ciel, alors nous ne sommes pas de ce monde, même si nous y vivons. Jean, chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mes frères et sœurs, si vous êtes rejetés, réjouissez-vous. Si vous êtes bercés par le monde, il y a un problème. Si on vous attaque à cause de votre foi, on ne répond pas. Merci Seigneur, tu me considères digne d'être rejeté à cause de toi. C'est ça, tendre la joue quand on frappe sur l'autre joue. Si on nous attaque sur notre foi, eh bien nous n'avons pas à riposter. On redonne l'amour, on donne la paix, et on bénit. Et on dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu nous accorde cette vision, comme c'est écrit dans la parole, qu'elle sera une bénédiction pour nous en tant qu'Église du Seigneur. Cette vision sera pour nous à la fois une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction parce que nous verrons les choses comme Dieu les voit. Une malédiction parce que voir les choses comme il les voit brisera et ruinera notre propre vie. Nos illusions seront détruites. Brisera notre vision humaine parce que nous ne pourrons plus jamais accepter la contrefaçon. Nous nous rendrons compte que son Église est un trésor. Il la voit comme sainte, pure. Je vous invite à lire le livre de l'Apocalypse, comment il voit ça dans son Église, qu'il prépare, et nous espérons faire partie de cette Église qui ira à sa rencontre. Il la voit sainte et pure et merveilleuse et indescriptible. Nous nous rendrons compte que l'Église, c'est tout simplement Christ dans le monde. Si Christ est monté au ciel, mais il est là dans le monde. Il est où? Mais c'est l'Église. C'est les chrétiens qui l'ont. Alors, quand vous entendez dire que la maison de Dieu, c'est un bâtiment, une adresse ou une dénomination, la vie qui est en nous, la vie qui était en nous, doit se révolter. Car la maison de Dieu n'est pas une chose morte faite par des mains humaines. Il ne faut pas réduire l'Église à un bâtiment. Même si Dieu nous fait la grâce de nous permettre de nous réunir dans ce modeste et beau bâtiment. Dieu ne rejette pas le bâtiment. Mais le message de ce matin, c'est qu'il ne faut pas confondre bâtiment et la véritable Église. Remercions le Seigneur de nous permettre, avec toutes les aides que nous avons eues avec les frères et sœurs, de nous réunir dans un bâtiment beau, modeste. Mais ne disons pas que ça, l'Église. Alors il ne nous restera plus qu'à dire, ensemble, « Seigneur, l'Église t'appartient, pas à moi, pas à n'importe qui. Maintenant, je vois mon erreur. Et je lui dis, je vois mon erreur. J'enlève mes mains sur elle, sur la véritable Église, que je juge tant. Parce que ce n'est pas à moi à y commander ou y diriger. Je me repens d'essayer d'établir ce que tu souhaites détruire et de détruire ce que tu souhaites construire. Que suis-je, Seigneur? Je ne suis qu'une petite pierre, une petite brebis, un petit membre d'un corps merveilleux de croix qui est l'Église, de croyants qui est l'Église. Tu construis ton Église et maintenant je te la laisserai faire. Laisse-moi, Seigneur, seulement trouver un endroit secret pour te servir et pour servir ton cœur dans le secret. Parce que je ne veux rien d'autre pour moi-même, mais tout pour toi. Que Dieu ait pitié de nous et nous donne une telle révélation de lui-même et de son Église, que nous puissions nous échapper de la chrétienté et trouver la vie. Et quand nous nous rencontrons dans ce bâtiment, nous le remercions pour sa juste valeur, en sachant que l'Église est ailleurs. Qu'il nous accorde cette vision céleste, car une minute de vision vaut toute une vie d'arguments. Que Dieu nous accorde un cœur éclairé pour accepter cette joie, avec joie, pour accepter avec joie le fardeau qui accompagne cette céleste révélation. Parce que réaliser cela, le chemin va être rude et dur, parce que beaucoup d'illusions vont tomber. Que Dieu nous aide. Amen.